9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Fabrice Caro.
Bonjour.
Vous êtes romancier chez Gallimard, prestigieuse maison s'il en est. Vous êtes également un auteur de BD, auteur culte, sous le pseudonyme de Fab Caro, qui est la contraction de votre nom. Auteur culte notamment à cause de votre BD Zaï 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 Zaï, qui est paru chez un petit éditeur en 2015, Six Pieds Sous Terre, et qui s'est vendu depuis à 250 000 exemplaires. C'est pas fini. Elle a même fait l'objet d'une adaptation au cinéma, on en dira un mot tout à l'heure. En revanche, votre actualité, c'est un film, Le Discours, signé Laurent Tirard, tiré de votre roman paru chez Gallimard en 2018, qui s'était déjà vendu à 120 000 exemplaires, ce qui est aussi une sorte de petit exploit. Si vous deviez pitcher le film à un producteur, vous diriez quoi ?
Oh là là, alors plus c'est simple, plus c'est difficile à pitcher. Mais
évidemment,
en gros, je dirais...
C'est pour ça que je voulais pas le faire.
Bah, c'est l'histoire d'un repas de famille. Alors le personnage principal, Adrien, est bloqué dans un repas de famille, un petit peu ennuyeux. Et quelques heures avant, sa compagne a décidé de faire une pause et lui a envoyé un texto. Donc tout le repas, il attend la réponse au texto. Et au tout début du repas, son beau-frère lui demande s'il veut bien faire un discours pour leur mariage à venir. Donc il y a ces deux fils rouges un petit peu en parallèle comme ça.
Et ce discours est pour lui une immense épreuve, on va comprendre pourquoi. On va d'abord entendre la bande-annonce.
Il y a environ un mois, Sonia m'a dit...
J'ai besoin d'une pause.
Pourquoi ?
Je me suis promis de ne pas contacter Sonia. Et puis aujourd'hui, j'ai craqué. Ça fait 1h11 qu'elle a lu mon message et qu'elle a toujours pas répondu. Pour ne rien arranger, je suis coincé à un repas familial où la conversation tourne actuellement autour...
Vas-y, chauffage au sol.
Oh, dis donc.
Ah, ça a l'air intéressant.
Ah bah oui, c'est intéressant.
Je crois que ça ferait très très plaisir à ta sœur si tu faisais un petit discours le jour de la cérémonie.
Oh putain, je l'avais pas vu venir celle-là.
Pourtant, ça fait 3 mois que je me prépare au cauchemar de ce mariage. L'église, le vin d'honneur et surtout la chenille. C'est une machine à broyer les orgueils.
Si ça se trouve, c'est la meilleure chose qui puisse arriver, ce discours.
Il y a tellement de choses à dire.
Putain, merde, pardon.
Des choses qu'on se dit jamais parce qu'on pense que c'est trop tard.
Putain, mais tu vas me lâcher, oui.
Mais en fait, je crois qu'il est jamais trop tard.
Que dire de plus ? 200 pages de votre prose résumée en 30 secondes. Adrien, c'est incarné par Benjamin Laverne, c'est un peu vous.
Un petit peu. Bah, mes personnages, c'est toujours un petit peu moi. C'est toujours des personnages bourrés de névrose un petit peu. Ouais.
Gros casting, vous allez le découvrir dans quelques instants, parce que Laurent Tirard a renoué avec une caractéristique emblématique du chef-d'œuvre de Godard, Le Mépris, le générique parlé.
Bonsoir. Les films sur mesure présentent Benjamin Laverne de la Comédie Française, Sarah Giraudot, Julia Piaton, Kian Kojandi, Guylaine Londez et François Morel dans Le Discours. D'après l'œuvre de Fabrice Caro, aux éditions Gallimard, produit par Olivia Lagache, écrit et réalisé par Laurent Tirard. Merci de votre patience, bonne projection.
Ça, c'est le tout début du film. Benjamin Laverne, il est en costume de beau-frère, ouais, il va faire le discours dans la salle. Il y a beaucoup de trouvailles formelles comme celle-ci. Est-ce que vous avez travaillé à l'adaptation ou est-ce que vous avez totalement laissé faire Laurent Tirard ?
Non, moi j'ai lâché le bébé. Laurent m'avait proposé si je voulais pas un petit peu co-écrire avec lui. Mais en fait, j'aimais bien l'idée, moi, de lâcher le bébé, d'assister à ça en spectateur. Et de voir évoluer le projet comme ça. J'aimais bien voir, lui dire, fais ce que tu veux avec ça, amuse-toi avec ça.
Beaucoup, beaucoup de trouvailles visuelles, séquences assez extraordinaires lors du dîner de famille, qui occupe la moitié du film, il faut le dire, ce fameux dîner. Chacun est dans sa bulle, chacun parle dans sa langue. Il y a le père qui raconte toujours la même anecdote, la maman qui fait toujours le même gigot, la belle-sœur qui est en totale admiration devant le futur marié, incarné par Kian Kojandi, qui raconte tout le temps des histoires comme s'il était Einstein, en gros. Il lit des papiers des que sais-je, et trouvailles visuelles absolument sublimes. Chacun dans sa bulle, chacun parle dans sa langue. Et Laurent Tirard a mis en scène une petite phrase de vous dans le roman. Racontez ce qu'il a fait avec les traducteurs.
Ah oui, ouais, à l'écrit comme ça, littéralement, des fois, moi je fais des images comme ça, des métaphores, et j'adorais l'idée qu'il incarne ça en fait.
C'est des traducteurs de l'ONU, et il y a comme un dîner, il faut se présenter un dîner avec 5 personnes, et il y a des cabines où chacun parle, ou comme à Bruxelles, où chacun parle dans la langue pour que chacun puisse comprendre ce que dit chacun aux autres.
Ouais, c'est ça, c'est une manière vraiment d'incarner l'incommunicabilité entre les personnages. Chacun a son langage, du coup on est obligé d'avoir des traducteurs. Et ça, c'est une super trouvaille. Il y a un tas de trouvailles visuelles comme ça dans le film que j'adore. Ça, c'est une super trouvaille, je trouve.
Et puis il y a aussi quand tout le monde est à l'arrêt. ce qu'on aimerait faire, et vous l'avez fait sans trucage. Enfin, vous l'avez fait, ils l'ont fait sans trucage.
Ouais, ouais, ouais.
Il y a des séquences absolument dingues, ou alors quand il y a deux voix qui se parlent, j'ai appris qu'ils le jouaient réellement, c'est-à-dire que Benjamin Laverne parlait fort, et Kian Kojandi parlait doucement, et ça n'a pas été remixé ensuite. Et puis alors, autre trouvaille visuelle, cette fois-ci elle vient de vous, parce qu'elle est dans le livre, c'est le sapin porte-serviette, en guise de cadeau de fête des mères que vous avez fait, que l'élève a fait en cours de technologie, mais complètement raté. Il est comment ce sapin? Je vous laisse le dire, moi je peux pas.
Moi, j'ai le droit de le dire.
Bien sûr.
Alors c'est un sapin un petit peu foiré. Du coup, au départ, ça devait être un sapin, mais à la fin, ça a plutôt une forme de bite.
Voilà. Et c'est vraiment arrivé.
C'est arrivé
à un copain à vous.
C'est vraiment arrivé. J'étais en sixième. Bon, sauf que la forme n'était pas aussi prononcée. Alors c'est rigolo parce que Laurent.
Mais quand
dit...
même, sa maman, elle l'a vraiment mis chez elle.
Oui. Et Laurent m'avait dit, est-ce que tu pourrais pas me le dessiner pour que je vois à peu près à quoi ça ressemblait? Donc il a fallu que je lui dessine un petit peu l'objet pour qu'il visualise.
Ouais, c'est vrai que c'est pas facile à imaginer.
Mais je crois, dans mon souvenir, ça a peut-être évolué. La forme n'était pas aussi prononcée. Mais il y avait quand même cette idée-là, de cette forme-là. Oui.
On va continuer à parler de forme, on va continuer à parler de fond. On est avec Fabrice Caro, on parle du discours, le film de Laurent Tirard, Culture Média, continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Fabrice Caro, c'est l'auteur du Discours, ce roman qui est devenu un film. Le film sort demain. C'est avec Benjamin Laverne de la Comédie Française, Sarah Giraudeau, Kian Kojandi, Julia Platon, François Morel, et c'est signé Laurent Tirard. Tirard qui a dit une phrase très jolie. Il a dit qu'avec ce film, il voulait faire un deuxième premier film. Il avait réalisé Mensonges et Trahisons et Plus si Affinité, Astérix et Obélix au service de sa majesté, Le Petit Nicolas et Le Petit Nicolas en vacances, je crois. Là, c'est un deuxième premier film, c'est une belle trouvaille, belle formule.
Oui, j'ai adoré. Bah, d'autant que j'avais adoré son premier film, avec Edouard Baird, le premier.
Ouais.
Il a voulu revenir à cette veine un petit peu intimiste, comme ça. Et ouais, ça fait plaisir. Ouais.
Cette histoire, c'est votre histoire. Il y a des choses très personnelles. J'aurais pas pu le découvrir si j'avais pas lu plein d'interviews de vous, comme Le Chagrin d'amour, qui est un sujet peu traité au cinéma, et surtout Le Chagrin d'amour des garçons.
Ouais. Alors j'avais peur de plomber un petit peu avec cette histoire. C'est un petit peu sur le fil. Un chagrin d'amour, ça peut être très déprimant, mais je voulais essayer d'en faire un outil de comédie, en tout cas. Le fait, cette attente-là, que ça poussait la névrose jusqu'à ce que ça puisse faire sourire, parce que sinon c'est pas très drôle.
Avant d'être un film, ce fut d'abord un livre, et vous dites que votre maman s'est reconnue dans le livre.
Oui.
Elle l'a pris comment? Elle faisait toujours le même gigot, votre maman?
Non, mais elle a reconnu pas mal d'éléments. Alors au départ, même, je lui avais caché la sortie. Je voulais pas qu'elle... Je me suis dit, bon, ça va passer inaperçu.
Ouais.
Bon, ça c'est pas passé si inaperçu. Donc elle a su que j'avais écrit un roman. Et elle l'a lu. Et j'avais beau lui dire, non, mais tu sais, c'est pas autobiographique, c'est de la fiction. Et elle me disait, oui, d'accord, mais pourquoi tu racontes que je te conseille de boire du jus d'orange? Je t'ai jamais dit ça. Alors, j'avais beau lui dire.
Ah, ça, elle l'a pas dit.
Non, elle l'a pas dit.
Ah oui, parce qu'il y a deux jours, on recevait Eric Lavelle, le cinéaste, et sa mère ne s'est pas envoyé un SMS. Elle a fait des stages d'informatique, elle était furieuse, et en plus, il l'a re-raconté. Donc, c'était vraiment la maman d'Eric, le héros. Donc, votre double, en quelque sorte, est incarné par Benjamin Laverne de la Comédie Française, je l'ai dit. Et il était ce matin, dans la matinale d'Europe 1 à 7h40. Et voici ce qu'il disait du film et de vous-même. On a évidemment pris un extrait. Fab Caro, attention les chevilles.
Déjà, l'histoire, elle est barrée. Hein. C'est Fab Caro, quand même. Fab Caro, ce grand auteur, notamment de BD, qui a écrit ce roman, Le Discours. Et donc, c'est main dans la main avec Laurent Tirard que s'est construit le film. Et voilà, oui, en effet, je pense que c'est pas un film qu'on voit tous les jours, notamment dans sa forme, dans sa mise en scène.
Il a raison, et pour qualifier son personnage, donc votre double en quelque sorte, Benjamin Laverne dit que c'était un mélange de poésie, d'humour et de cerveau malade. Vous vous reconnaissez?
Cerveau malade, je me reconnais un petit peu. Ouais,
c'est vrai
ouais.
Qu'est-ce qu'il a de malade, votre cerveau?
Je crois qu'on est tous un petit peu malades.
Ah bon?
Non, enfin, depuis que je publie des livres et que je fais des dédicaces, au départ, quand je me disais, mais personne ne va se reconnaître dans mes névroses.
Ouais.
Et puis en dédicace, j'avais des gens qui passaient comme ça, qui me disaient, oh, c'est fou comment on se reconnaît. Et là, ça a servi de thérapie. Je me suis dit, je crois qu'on est tous un petit peu tarés, en fait.
Il y a aussi une question, il y a plein de questions profondes, évidemment, dans ce film. C'est pas seulement de l'anecdote et des gags qui font rire, il y a aussi des gags qui font réfléchir. Il y a la question de ce qu'on appelle l'humour de classe. Par exemple, pour Adrien, le héros, le pire supplice dans la vie, c'est la chenille à la fin des mariages, à la queue leu, il le dit, la machine à broyer les orgueils. Pour Sonia, sa fiancée, il faudrait avoir lu le livre de l'intranquillité de Fernando Pessoa ou Gatsby le Magnifique. En revanche, Harry Potter, c'est nul. Là, on est chez Bourdieu, la distinction. Est-ce que ce sont des sujets qui vous taraudent ou qui vous ont taraudé? Est-ce qu'il y a une bonne et une mauvaise culture?
Non, il n'y a pas de bonne et de mauvaise culture. Mais moi, il se trouve que je viens d'un milieu très populaire. Et donc je suis passé un petit peu par toutes les couches comme ça, et je dis souvent que j'ai double nationalité, je viens d'un milieu très populaire, puis mon parcours a fait que j'ai rencontré d'autres gens, et je hiérarchise pas les cultures, les arts.
Et cette musique, c'est vraiment l'horreur pour vous ?
Oui. J'ai une espèce de phobie de tout ce qui est grand repas de famille. Et il y a toujours ce moment crucial.
Donc ça, vous avez toujours cette phobie-là.
Oui. Bon, alors, il y a moins de mariages et de baptêmes maintenant autour de moi, parce que tout le monde, ça y est, tout le monde est calme. Mais j'avais toujours cette phobie de ce moment-là où la chemise était terrible.
Dans le film, votre futur beau-père est incarné par Kian Kojandi. J'ai pu lui parler hier à Kian. Et contrairement à vous, contrairement à Adrien, il est un grand fan de chenilles.
Personnellement, je suis un grand fan de chenilles, c'est vrai. Et je sais qu'il y a des gens qui sont un peu réticents à ça. Il y a quelques années au Festival de Cannes, un soir, tout le monde était en smoking, guindé, assez chic. Et j'ai lancé une chenille et j'ai vu des gens s'éclater, vraiment. Il y avait un côté genre, ah, mais c'est formidable ça, c'est si populaire, et ben ça fait du bien, et je kiffe parce que ça crée un vrai contact dans la soirée, ça crée une vraie excitation, ça me fait marrer. En fait, c'est comme si on la faisait au second degré, mais au fond de nous, on la fait quand même un peu au premier degré.
Voilà, n'allez pas avec Kian Kojandi au Festival de Cannes, vous aurez droit à la chenille, on entendait les petits oiseaux. Dans un instant, Eva Rock va être de retour, on va parler de musique, on va parler de jazz avec une voix culte, je crois que c'est celle de Nina Simone. J'ai pas spoilé parce qu'on va l'entendre et ça va tout changer. Fabrice Caro, reste avec nous, Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Fab Caro, le dessinateur alias Fabrice Caro, le romancier Le Discours, roman paru il y a 3 ans, qui devient un film signé Laurent Tirard, qui sort demain, extrêmement réussi. Eva Rock est de retour avec nous. Eva, on va parler de musique.
Oui.
Bonjour. On a eu une grosse discussion ce matin avec toute la rédac, il faut le dire, avec Nicolas Souvent, avec Eva Rock, qui m'ont fait remarquer que ce qu'on vient d'entendre, c'est pas la chenille, c'est la queue-leu-leu. La chenille, c'est ça, et la spéciale dédicace aux puristes, dont Bertrand Chameroy.
Accroche tes mains à ma taille, pour pas que la chenille déraille, tout ira bien.
Eva, elle me regarde avec le regard comme si j'étais le roi des bourrins.
Oui,
c'est ça la chenille, c'est pas la queue-leu-leu.
Mais c'est pas la queue-leu-leu.
Mais alors pourquoi vous avez passé à la queue-leu-leu ? Vous aviez pas les droits ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors ça faudrait demander précisément à Laurent, mais je crois que c'était une histoire de droit. Donc
d'accord.
Du coup, il a remplacé la chenille par la queue-leu-leu.
Voilà.
Désolé pour les puristes.
Ouais. Mais en tout cas, il y a les ayants droit qui doivent se manger les doigts.
Bah oui.
Parce qu'ils auraient mieux fait d'être dans le film de Laurent Tirard. Eva, vous êtes de retour avec de la musique. D'un genre un peu différent quand même.
On va dire ça, voilà.
Vous allez nous parler d'une voix.
Oui, parce que je tenais vraiment à parler musique devant Fabrice Caro, parce qu'en plus d'être un génie du dessin et un romancier exceptionnel, c'était ma minute flagornerie, c'est absolument gratuit.
Je peux dire ce que vous avez dit ce matin.
Oui, vous pouvez
le dire.
Elle
m'a dit, quand j'ai lu son roman, j'éclatais de rire toute seule.
Ah, mais
Le Discours en 2018 chez Gallimard.
Ça reste un grand roman pour moi de ces dernières années, vraiment.
Merci.
Et vous êtes aussi musicien, auteur et compositeur de rock. Donc, en toute logique, je vais vous parler de jazz. Voilà,
c'est préparé cette émission.
Voilà, c'était préparé parce que le 25 juin, figurez-vous, une immense voix va de nouveau se faire entendre.
Stars, they come and go. They come fast, they come slow. They go like the last light of the sun, all in a blaze. All you see is glory. But it gets lonely there when there's no one there to share. You can shake it away.
Pour une part, j'ai reconnu la voix. Pour une autre part, je le savais. C'est un nouvel album de Nina Simone, Eva.
Oui, exactement. Et quel album ? En fait, c'est le fruit d'une collaboration entre la maison de disques BMG et le Montreux Jazz Festival, qui a longtemps été dirigé par un homme qui s'appelait Claude Nobs. Et ce sont ses archives, en fait, qui ont permis de confectionner cet opus de 29 chansons, des titres interprétés lors de 5 concerts absolument légendaires qu'elle avait pu produire entre 1968 et 1990 à Montreux. Et alors, pour tout vous dire, j'ai vraiment eu le plus grand mal à choisir des extraits parmi toutes ces chansons que Nina Simone interprète de tout son corps et de toute son âme. Elle électrise le public comme en 1990 avec ce tube.
My baby don't care for shows. My baby don't care for just cares for me. My baby don't care for how
plus du rock, hein, Fab Caro.
Ouais,
hein.
Ouais,
en tout cas, on bougeait tous la tête, comme dans le Muppet Show.
Exactement. My Baby Just Came For Me, c'est devenu un standard et c'est vraiment marqué par l'empreinte vocale de Nina Simone. Et à chaque titre qu'on découvre dans cet album, eh bien, c'est une nouvelle facette de son talent. Excellent pianiste, on vient d'en entendre un petit mot.
C'est elle au piano.
C'est elle au piano, évidemment. Chanteuse capable de reprendre un titre a cappella, capable aussi de s'accaparer les plus grandes chansons pour en faire une œuvre à part.
Ne me quitte pas. Il faut oublier tout. Faut s'oublier qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à sa voix.
Vous le disiez, Eva, 5 concerts légendaires entre 68 et 90. Est-ce que sa voix change entre les concerts?
Oui, mais alors c'est de façon assez imperceptible. Cette version de Ne me quitte pas, elle date de 1968. Et je la trouve plus claire dans sa voix par rapport à la version de 1990, qui est également disponible dans cet album. Mais c'est assez amusant de faire la comparaison. Mais je trouve surtout qu'on sent la colère dans sa voix au fur et à mesure des morceaux, un désir de s'affirmer, de chanter aussi pour ceux qui sont opprimés et qui n'ont pas une voix comme la sienne qui se fait entendre. Elle qui, depuis le début des années 60, militait pour le mouvement de défense des droits civiques. Et à chaque prestation, eh bien, c'est sa puissance vocale qui se fait entendre et qui bouleverse, à l'instar de ce titre joué en
1968. All the things that I should say, say them loud, say them clear, for the whole round world.
J'aimerais savoir comment c'est d'être libre, chante Nina Simone. Parmi les 29 titres, vous retrouverez notamment l'intégralité du concert de 1968 qui est disponible donc pour la première fois en CD. Enfin, il faudra entendre encore un tout petit peu parce que l'album sortira que le 25 juin, en même temps qu'un autre opus qui sera consacré cette fois-ci à Etta James. Alors, je ne sais pas si Fab Caro, cette voix vous bouleverse autant que moi, elle me bouleverse, j'en perds même mes mots. En revanche, j'ai cru comprendre, et on va changer de domaine, que vous étiez capable de pleurer en écoutant « Il était une fois en Amérique » d'Ennio Morricone. C'est
oui,
vrai.
Oui, 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 oui.
Alors un petit cadeau pour vous, hein, parce que ça c'est sorti il y a quelques jours, c'est oh un double là, vinyle contenant quelques-unes des plus belles bandes originales d'Ennio Morricone. Il n'y a pas « Il était une fois en Amérique », mais
merci
bon, il y en a d'autres, voilà.
Ben,
c'est un
beaucoup,
petit cadeau.
Ça me touche.
C'est ce qu'on entend
voilà.
En son, en bande son, c'est « Il était une fois en Amérique ». Merci beaucoup. Vous lui offrez vraiment ?
Mais bien sûr, je vais le reprendre en sortant du studio, Philippe.
Faut que j'écrive un livre.
Je serai tout seul.
On revient à Nina Simone, on écoute un titre.
Bah évidemment, une reprise même. No Woman No Cry, voilà, de Bob Marley par Nina Simone.
No woman no cry. Boom, boom, boom. No woman no cry. I'm telling you now. No woman no cry. They would mingle with the good people with me.
No Woman No Cry, c'était la version de Nina Simone en live sur Europe 1. Dans un instant, notre deuxième indispensable avec Clément Le Saffre qui va tout nous dire sur le retour d'un manga culte.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Fab Caro, alias Fabrice Caro, Fab Caro dessinateur, on se rapproche de votre élément, Fab Caro. Bonjour Clément Le Saffre.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
On va parler de bande dessinée, pas tout à fait de la bande dessinée, on va parler de manga, la BD d'origine japonaise qu'on lit à l'envers. Et votre indispensable du jour, c'est le retour d'un manga culte.
Oui, un retour bref, mais qui m'a fait très plaisir et dont je voulais absolument vous parler. C'est la sortie chez Kana de Death Note Short Stories. C'est un recueil d'histoires courtes situé dans l'univers de Death Note et qui marque au passage les 15 ans de la fin de ce manga qui a marqué une génération entière dans les années 2000, vendu à plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde tout de même. Hein.
30 millions,
c'est pas mal, effectivement. Alors avant de parler de ce petit recueil, pour ceux qui ne connaissent pas Death Note, on va faire un petit rappel. C'est l'histoire de Light Yagami, un lycéen brillant, le plus intelligent de tout le Japon. En fait, un jour, il trouve un cahier par terre, un cahier noir avec écrit Death Note dessus, littéralement le cahier de la mort. Sur la première page, il y a tout un tas de règles pour le moins étonnantes. Extrait de l'adaptation en dessin animé.
La personne dont le nom est écrit dans ce cahier, mais il faut avoir en tête le visage de la personne dont on écrit le nom, sans quoi la mort ne surviendra pas. Si l'on écrit la cause de la mort à la suite du nom dans un délai de 40 secondes du monde des humains, la personne visée décède de la manière ainsi décrite. Si l'on n'écrit pas la cause, la mort survient systématiquement par crise cardiaque. Il faut reconnaître que pour une blague, c'est tout de même assez élaboré.
Sauf que ce n'est pas du tout une blague. Hein. Par curiosité, Light essaye le cahier. Il inscrit le nom d'un criminel recherché par la police et paf, le criminel meurt d'une crise cardiaque. Puis un deuxième, un troisième. Et Light se donne une mission, purger la terre de tous les criminels. Chaque jour, il en tue des dizaines simplement en écrivant leur nom dans son cahier. Le tout sous la supervision de Ryuk, c'est le dieu de la mort, responsable du cahier, sorte de démon ailé qui raffole des pommes du monde des humains.
Des pommes. Donc une histoire surnaturelle, une histoire fantastique.
Oui, alors ça, c'est les prémices. Mais en fait, Death Note est avant tout un polar. En fait, Light est rapidement surnommé Kira par la population. À une moitié le considère comme un dieu, puisque vu qu'il ne tue que des criminels, bon, bah, certains trouvent qu'il y a un intérêt. Mais l'autre moitié estime que, certes, ce sont des criminels, mais ça reste quand même des meurtres. Et surtout, il agit à visage découvert, donc les gens ne trouvent pas ça bien. Et donc, Light est traqué par elle, un détective geek asocial, mais au moins aussi intelligent que Light. Tous les deux se livre un mano à mano psychologique, hein, chacun agissant dans l'ombre cachée, plaçant ses pions comme dans une partie d'échecs, et ça donne un polar diablement bon. À l'intrigue est retorse, avec des rebondissements quasiment à chaque page, des morts inattendues. Tout le monde manipule tout le monde dans ce manga, et l'auteur Tsugumi Oba, lui, s'amuse à perdre doucement le lecteur. On pense qu'on a compris, on pense avoir un coup d'avance, et en fait on en a trois de retard. Et c'est peut-être, finalement, pour moi en tout cas, la meilleure histoire policière que j'ai jamais lue. Hein. Roman, BD et film confondus,
ah oui,
c'est assez extraordinaire.
À ce point, Clément, ouais, c'est la fois que vous dites ça depuis le temps qu'on travaille ensemble. Pourtant, c'est pas un point de vue banal. Le héros est celui qui tue les gens.
Oui, et c'est justement ce qui fait que pour moi, Death Note est une œuvre particulière. À part, c'est une œuvre ambiguë. On sait jamais vraiment quel camp soutenir. Hein. Tous les personnages ont une double face. Il n'y a pas vraiment de morale. En fait, la narration nous pousse à adopter le point de vue de Ryuk, hein, le dieu de la mort, qui regarde ce cirque humain à distance, hein, mi-amusé, mi-étonné par la violence de l'homme envers ses semblables. Ryuk et Death Note qui ont d'ailleurs pris vie en 2017 dans un film produit par Netflix. Forcément, 30 millions de livres vendus, ça attire les studios hollywoodiens. Dommage, le film est globalement raté. Mais il y a quand même un point dans ce film qui mérite quand même d'être vu. C'est Willem Dafoe, hein, l'acteur américain, qui prête sa voix incroyable, hein, au dieu de la mort. Et c'est un régal pour les oreilles. En voici un extrait en VO, évidemment, pour en profiter.
Oh yes, a dream. I like that. Dreams are places you can have fun, right? It's all in your mind, so why not enjoy it?
Voilà, ce rire est quand même très très particulier. Le film, voilà, est assez moyen, mais bon, il n'est pas à la hauteur du manga, il faut le dire. Mieux vaut lire Death Note que le regarder. Les 13 tomes originaux sont disponibles aux éditions Kana. Et puis, il y a donc ce short stories, hein, c'est des histoires courtes, certaines sérieuses, d'autres drôles. C'est facile à lire et puis, bah, ça permet d'admirer une nouvelle fois, hein, Fab Caro est en train de la regarder, les dessins de Takeshi Obata. C'est l'autre moitié du duo derrière Death Note, ils sont deux. Ils dessinent avec des traits très fins, ils jouent à merveille sur l'ombre et la lumière. C'est extrêmement détaillé, hein, aussi. C'est vraiment pour moi un des meilleurs dessinateurs contemporains de manga. Personnellement, bah, j'ai replongé direct. Hein. J'ai lu Death Note deux fois déjà, la série entière, dans mes primes années, dirons-nous. Ouais. Et donc quand j'ai reçu ce short story, je me suis dit tiens, je vais relire le premier tome, histoire de me rafraîchir la mémoire pour cette chronique. Résultat, j'en suis au tome 5 en deux jours et je suis bien parti pour la finir une troisième fois.
Oh, compliment. Merci Clément Le Saff. Ça vous tente, Fab Caro?
Bon, tu vois, graphiquement, je trouve ça très beau. Alors moi, j'ai raté un petit peu le train du manga. Je suis un petit peu un vieux con, mais je trouve ça super, super beau. Ouais, graphiquement, c'est... Ouais, j'adore.
D'accord. Bah, merci beaucoup. Voilà pour la réponse. Redites le Death Note.
Alors, le Death Note, c'est ça. C'est aux éditions Kana. Il y a 13 tomes, plus donc le manga qui vient de sortir, les Short Stories Death Note.
30 millions d'exemplaires vendus, mais ça coûte pas cher. Hein.
Non, les tomes sont à 6 euros.
On se retrouve dans un instant avec notre invité Fab Caro pour la dernière partie de l'émission Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
En compagnie de Fab Caro, alias Fabrice Caro, le film Le Discours, tiré de son roman du même nom, sort demain, signé Laurent Tirard. Vous avez bossé aux Inrocks ?
Ouais, pendant 2 ans et demi. Ouais.
Écoutez, je voulais pas en parler, mais vous connaissez l'adage, on n'est jamais trahi que par les siens. Toute la critique encense le film, à l'exception notable des Inrocks, qui viennent de sortir en mensuel, la critique de Théo Ripton, alors je vous dis le titre, le roman méchamment drôle de Fab Caro, ça c'est bien pour vous, s'écrase sur grand écran en film plat et bêtement misanthrope. Oh ah, attention, tenez-vous bien.
Non.
Toute la misanthropie frelatée du discours sans moins provenir d'un dégoût sincère du monde qui l'entoure que des vieux réflexes épuisés d'un mauvais cinéma de mœurs qui ne regarde ni la famille ni la société, mais seulement lui-même et ses petits effets de manche banalement acide. Et je m'arrête là. Waouh. Une colonne comme ça dans les Inrocks.
Bon, bah, j'irai pas acheter les Inrocks cette semaine.
c'est mensuel. Vous irez pas jusqu'au mois. Il y a Fabrice Caro et il y a aussi Fab Caro, votre pseudo d'auteur de BD. Lequel a commencé?
Lequel a commencé? Les deux ont commencé. Ça fait un petit peu schizophrène de parler comme ça, mais les deux ont commencé à peu près en même temps. Je crois qu'en 2000, alors j'ai pas la mémoire des dates, mais en 2005. Sont sortis à peu d'intervalle mon premier roman, Figurec, chez Gallimard, et ma première BD, Le steak haché de Damoclès.
Je souris parce que le titre me fait encore marrer.
À la cafetière. Donc, j'ai toujours fait les deux en parallèle, mais je crois que le début, ça s'est fait peut-être la BD un poil avant, malgré tout, mais c'est à peu près en même temps. Oui.
Est-ce qu'il y a tout changé? C'est zaï, 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 zaï. Il y a un avant, un après, j'imagine.
Oui, clairement. Oui.
Concrètement, ça s'est manifesté comment?
Avant Zaï Zaï, moi j'avais un petit public très fidèle mais très restreint. Chaque album c'était 1500-2000 exemplaires. Avec un public qui aimait bien mon boulot, qui me suivait un petit peu partout dans ce que je faisais.
Pardon, juste un mot. Quand ouais. On vend 1500, on arrive à en vivre ou il faut un travail à côté?
Ah non, j'en vivais pas. Non. Ah non, 1500 exemplaires, il faut faire des boulots de commande à côté, il faut faire d'autres choses. Je vis de la BD concrètement depuis Zaï Zaï.
Ouais.
Enfin, j'ai arrêté les boulots à côté depuis Zaï Zaï.
250 000, c'est ça?
Ouais, on a peut-être dépassé. Oui, dans ces eaux-là. Ouais.
Et vous dites également que la perception du monde de la culture a changé. Vous dites maintenant, on me dit oui à tous mes projets, alors que pendant 10 ans, vous accumuliez les refus.
Ouais, c'est ça. C'est rigolo de voir. Bon, cela dit, c'est normal. C'est le parcours classique. Quand je me souviens de mes années de galère comme ça à démarcher, je collectionnais mes lettres de refus dans un classeur. Je les ai gardées. Il y a un petit côté mazou.
Ah oui. Mais... Vous allez les publier un jour?
Ah, c'est possible. Il y aurait matière.
Quand j'ai parlé de vous à Kian Kojandi, la première chose dont il m'a parlé, c'était justement Zaï 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 Zaï. On l'écoute.
J'adore Fab Caro. J'ai découvert en vacances un jour, et c'est vrai que j'ai découvert Zaï 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 comme tout le monde. On m'a souvent appelé le mec de Bref. Je pense qu'on lui a appelé le mec de Zaï 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 Zaï. Donc, on a ça en commun, et j'adore son écriture, sa comédie. Je trouve qu'il a inventé une comédie en BD que j'avais jamais eu l'occasion de voir. Et toutes ces BD, ces romans sont juste à crever de rire et aussi teintés quand même pas mal de vérité, d'émotion. Donc, on s'identifie beaucoup à son travail, mais il a réussi quand même à inventer des blagues où c'est n'importe quoi et ça fait rire, mais ça fait mouche à 200% d'ailleurs. C'est les cadeaux que je fais depuis 3-4 ans, il m'a facilité ma vie. C'est simple, quand j'ai un cadeau à faire, j'offre du Fab Caro et c'est réglé, je suis sûr que ça va marcher. Donc merci Fab Caro d'exister.
13 euros seulement pour un cadeau très réussi, c'était sorti en 2015, adaptation au cinéma, vous l'avez vu?
Ouais, je l'ai vu. Il est censé sortir avec tout ça, il a été repoussé, il sort en janvier 2022 je crois. Bah, pareil, j'ai trouvé le résultat très réussi. Bah, comme le discours, je me disais mais c'est inadaptable cette histoire.
Ouais.
Et en fait, dans les deux cas très différents, c'est un ovni, il a le mérite d'être un petit peu à part dans la comédie française.
Il nous reste quelques secondes, je veux juste un mois. Vous travaillez sur une prochaine BD, elle sort quand?
Elle sort mi-septembre.
Vous avez déjà le titre?
Ça s'appelle Moon River.
Merci beaucoup Fab Caro, alias Fabrice Caro. Je rappelle Le Discours, film de Laurent Tirard, tiré de votre roman chez Gallimard, avec Benjamin Laverne, Sarah Giraudeau, Ken Kojandi, Julia Piaton et François Morel. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir fait le voyage depuis Montpellier. Nous, on se retrouve demain à 9h pour Culture Média, la grande finale de Top Chef sur M6. Nous serons avec les chefs Hélène Darroze et Philippe Etchebest, mais ils ne vont pas nous dire qui a gagné. Et puis les comédiens Martin Lamotte et Florian Essig pour le film L'Instant Présent. Juste après le flash, c'est Anne Romanoff. Ça fait du bien, c'est le nom de l'émission. Je vous dis à demain. Merci encore Fab Caro.
Merci.
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes féru de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.